nous apporter joie et bonheur. Sans souffrance, sans compréhension de cette souffrance, le véritable bonheur est impossible. La fin du malentendu. Pendant la guerre du Vietnam, des millions de personnes croyaient que j'étais un communiste, tandis que pour d'autres, j'étais un agent de la CIA. Si vous étiez dans une situation analogue, vous en souffririez peut-être terriblement. Vous pourriez vous sentir victime d'incompréhension et d'injustice. Vous pourriez vous dire que votre souffrance ne cessera jamais tant que les gens continueront à penser que vous êtes un communiste ou un agent de la CIA. Mais vous pourriez aussi décider d'agir, faire quelque chose d'autre. Simplement décider d'accepter la situation telle qu'elle est. Oui, il y a effectivement des millions de personnes qui croient que vous êtes communiste. Et il y en a des millions d'autres qui croient que vous soutenez la CIA. Mais c'est uniquement leur manière de voir les choses. Je ne suis ni un communiste, ni un agent de la CIA. Je n'ai donc aucune raison de souffrir. Ce n'est qu'en vivant ma vie, par mes actions, par mes paroles, que je pourrai me prouver à moi-même que ma cause est tout à fait juste. C'est la cause de la paix et de la réconciliation. Si nous parvenons à faire cela, alors ce type de souffrance ne nous affectera plus du tout. La souffrance est faite de malentendus, de colère, de haine et d'ignorance. Et si je compte sur les autres pour dissiper ce genre de cause à ma place, je pourrais peut-être attendre une éternité. Nous devons donc élargir notre perception et utiliser notre concentration et notre vision profonde pour discerner à quel point les personnes autour de nous souffrent en raison de leur façon de penser, de leur manière d'agir ou de parler. Or, si nous souffrons comme elles, nous n'aurons pas non plus les moyens de les aider. Il nous appartient donc d'y œuvrer, afin de transformer notre souffrance et de donner à notre compréhension et à notre compassion toutes les chances d'émerger. Par la suite, nous pourrons ainsi aider ces personnes. Si nous adoptons ce type d'attitude, cette forme de compréhension, nous ne souffrirons plus, car nous disposons de bons outils, ceux de la compréhension et de la compassion. Et ce n'est qu'avec la pratique que nous pouvons les développer. Ces difficultés et ces injustices ont existé de tout temps. Le Bouddha lui-même a dû les traverser. Un jour, des malfrats tuèrent une danseuse et enterrèrent son corps dans les terres du monastère avant de prévenir la police. Celle-ci arriva sur les lieux et après avoir découvert le corps, elle commença à répandre la rumeur selon laquelle le Bouddha et les moines avaient eu des relations sexuelles avec la danseuse avant de la tuer et de l'enterrer. Le lendemain matin, quand les moines revêtirent leurs robes, prirent leur bol et partirent en ville faire l'aumône, on les regarda avec ce type de regard qu'il est si difficile de soutenir, un regard rempli de suspicion et de mépris. Ils ont dû subir cela des jours et des jours. Les moines allèrent alors trouver le Bouddha. Cher maître, nous n'en pouvons plus. Chaque fois que nous allons en ville, les gens nous regardent avec des yeux méprisants nous souffrons énormément. » Alors le Bouddha leur répondit : « La chose essentielle est que vous n'ayez pas commis ces actes, que vous n'ayez pas fait ce dont ces personnes vous accusent. Vous savez très bien que vous avez respecté vos préceptes. » Voilà donc notre pratique. Un jour, le malentendu pourra se dissiper, simplement par la façon dont vous vivez votre vie, à travers la manière dont vous pratiquez. Le monde regorge d'exemples comme celui-là. Mais si vous cultivez la compréhension et la compassion, vous n'avez pas à en souffrir. Partout, nous pouvons rencontrer des groupes de personnes jalouses qui font tout ce qu'elles peuvent pour éclabousser notre réputation. En fait, ces personnes doivent souffrir terriblement de leur propre jalousie pour en venir à faire de telles choses. Nous devons donc les considérer avec beaucoup de compassion. Grâce à votre pratique, vous serez un jour à même de les aider à s'éveiller et vous parviendrez à voir que ce qu'elles ont fait n'est pas digne de personnes qui marchent sur le chemin spirituel. C'est grâce à cet enseignement du Bouddha que les bhikkhus, les moines, cessèrent enfin de souffrir de cette situation. La communauté du Bouddha avait tout de même souffert près d'un mois de cet incident. Mais, quelques semaines plus tard, le pratiquant laïc Anatta Pindika, étudiant et fervent défenseur du Bouddha, engagea des détectives privés. Et ceux-ci parvinrent à démasquer les auteurs du crime. En réalité, votre degré de souffrance dépend entièrement de vous. Que vous souffriez un peu, beaucoup ou pas du tout, cela dépend totalement de votre capacité à regarder profondément, de votre aptitude ou non à faire preuve de compréhension et de compassion. S'il vous faut souffrir un peu, autorisez-vous à souffrir. Enveloppez votre souffrance de toute votre tendresse. Ressentez-la de tout votre cœur et regardez en profondeur afin de générer concentration et vision profonde. Vous développerez ainsi les moyens de générer la compassion et la compréhension, mettant alors fin à vos sentiments de colère ou de haine envers les personnes qui tentent de vous faire souffrir. Ensuite, faites aussi le vœu de cultiver votre pratique et de vivre de telle sorte que vous puissiez leur venir en aide plus tard. Si votre souffrance vous a été transmise par votre père ou votre mère, ne blâmez ni votre papa ni votre maman. Dites-vous simplement qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer le dharma et la pratique. Et c'est pour cela que cette souffrance est parvenue jusqu'à vous. Mais vous pouvez agir pour vous et pour eux, car si vous savez comment pratiquer, vous aiderez votre papa en vous et votre maman en vous. Vous êtes prêt à souffrir pour lui, pour elle. Et dans ce cas, la douleur n'est pas du tout négative, car vous souffrez dans le but de trouver une solution, une issue. Permettez-vous donc d'avoir un petit peu mal. Ne cherchez pas à fuir la souffrance, car elle n'est pas uniquement négative. Dites-vous qu'il y a beaucoup d'enfants qui détestent le melon amer au début et qui, à l'âge adulte, s'en délectent. Les situations les plus difficiles à vivre sont celles où nous reconnaissons la présence de la souffrance, mais sans parvenir à en identifier la nature. cela reste quelque chose de très vague. Impossible de l'appeler par son vrai nom. La souffrance est bel et bien présente en nous, mais il nous est impossible de l'éclairer suffisamment de notre pleine conscience afin de la reconnaître clairement. Tout cela provient de nos blocages, des résistances que nous portons en nous et de notre tendance à toujours la fuir, au lieu de revenir à nous et de la reconnaître. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est notre tendance habituelle. Chaque fois que nous sommes sur le point de toucher la souffrance, nous refusons de la contacter et nous préférons prendre la fuite. Cela fait si longtemps que nous agissons ainsi que jamais nous n'avons encore eu l'occasion de rencontrer cette souffrance, de la reconnaître et de l'identifier. Désormais, nous pouvons nous faire la promesse d'agir différemment. Nous nous engageons à ne plus la fuir. Nous pouvons alors faire le vœu que, chaque fois qu'elle se manifestera, nous pratiquerons l'arrêt et nous l'accueillerons avec un sourire. Et puisque tous les blocs de souffrance tentent toujours de s'exprimer à un moment ou à un autre, nous aurons tous l'opportunité de les identifier plus tard grâce à l'observation et à notre pleine conscience. Il n'est en effet absolument pas nécessaire de retourner vers le passé pour rencontrer notre souffrance et la reconnaître. Il suffit de simplement rester dans le moment présent, avec vigilance, en pleine conscience, et elle se manifestera d'une manière ou d'une autre. Et quand nous reconnaîtrons les signes de sa manifestation, nous serons en mesure d'en identifier la nature. La pratique de la méditation bouddhique est centrée sur le moment présent. Nous n'avons pas besoin de retourner dans le passé, dans notre enfance, pour rencontrer notre souffrance et ses causes profondes. Il nous suffit de rester entièrement ancré dans l'instant présent et d'observer ce qui s'y passe. Cette souffrance, dont les racines sont profondément enfouies dans le passé, voire dans des vies antérieures, finira toujours par se manifester à nous. En fait, elle est présente toute la journée et sa simple manifestation suffit à l'identifier. Homo conscious. Le Bouddha est l'un des plus beaux exemples de l'espèce humaine que nous appelons Homo conscious. Il y eut d'abord Homo erectus, l'homme debout. Ensuite, Homo habilis, l'homme adroit. Puis, Homo sapiens, l'homme pensant. Maintenant, nous avons l'expression Homo conscious, l'être humain qui est conscient, éveillé. Cette expression a été utilisée par d'autres personnes avant moi. Je n'en suis pas l'auteur et je ne fais que la leur emprunter. Lorsque la conscience amène l'humain à faire ce grand constat, un jour, je tomberai malade, je vais vieillir, je vais mourir, il peut facilement sombrer dans les affres de l'anxiété, de la peur et de l'angoisse. Et c'est alors qu'il sera susceptible de tomber malade. Souvent, nous nous interrogeons. Les autres espèces sont-elles moins conscientes que nous? Souffrent-elles moins de savoir ce qu'elles deviendront à l'avenir? Comme tous les humains, portent cette angoisse en eux, nous nous posons alors ces questions métaphysiques. Qui suis-je? Que vais-je devenir? Est-ce que j'existais déjà dans le passé? Et si c'est le cas, à quelle espèce d'animal ai-je appartenu? Est-ce que j'existerai encore dans le futur? Si oui, quelle espèce animale serais-je? Toutes ces questions trouvent leur origine dans cette angoisse typiquement humaine et peuvent engendrer mal-être et maladie. Et c'est encore cette même angoisse qui génère nos habituelles questions. Est-ce que mes parents me désiraient vraiment? Est-ce que je suis né par accident? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime? Et les innombrables pensées qui en découlent. C'est précisément notre capacité à être éveillé qui peut nous sauver. Notre nature même d'être humain, doté d'une conscience. C'est en effet grâce à elle que nous percevons combien l'environnement de cette planète appartient à toutes les espèces, que nous comprenons que l'être humain est en train de la détruire. Dès que les hommes sont conscients de la souffrance engendrée par l'oppression politique et par l'injustice dans la société, ils sont en mesure d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire et d'aider les autres à s'arrêter à leur tour pour amorcer une nouvelle direction, une orientation différente qui ne détruira plus notre planète. Il est vrai que c'est notre conscience qui révèle notre anxiété et notre angoisse. Mais si nous savons comment utiliser cet éveil, cette pleine conscience, nous parviendrons à discerner la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous percevrons alors clairement ce qu'il est bon ou non de faire afin de transformer la souffrance et ainsi de faire place à la paix, au bonheur et à l'avenir. La méditation assise n'a rien à voir avec une quelconque recherche d'illumination dans le futur. Au contraire, quand nous sommes assis, nous avons la possibilité d'être totalement avec nous-mêmes. Bien présents sur notre coussin, nous respirons de façon à être pleinement vivants. Nous sommes complètement dans le présent, dans l'ici et maintenant. Avoir le temps de nous asseoir, avoir le temps de marcher, de nous brosser les dents, d'apprécier l'eau qui coule sur nos mains quand nous en rinçons le savon, tout cela peut déjà nous apporter beaucoup de bonheur. Quand nous prenons un repas, nous devrions manger de manière à ce que la joie, la détente et le bonheur soient disponibles. Car partager un repas à plusieurs est une véritable pratique profonde. Tout comme nous le faisons avec la respiration, l'assise, la marche et le travail, nous mangeons de telle sorte que nos ancêtres puissent manger avec nous. Notre père mange avec nous. Notre grand-père et notre grand-mère mangent à nos côtés. Nous nous asseyons confortablement, comme quelqu'un qui n'a aucun problème, aucune angoisse. Le Bouddha nous a enseigné à ne jamais nous laisser emporter par des pensées ou des conversations futiles au cours des repas. Nous devrions simplement demeurer dans l'instant présent pour être profondément en contact avec la nourriture et avec nos bien-aimés qui nous entoure. Nous devrions toujours manger de façon à être heureux, à l'aise et en paix, afin que chacun de nos ancêtres et de nos descendants puissent en profiter également. Lorsque j'avais 4 ou 5 ans, ma mère avait pour habitude de me rapporter un gâteau à base de pâte de haricots chaque fois qu'elle se rendait au marché. Ainsi, durant son absence, je restais au jardin, m'amusant avec les escargots et les cailloux. Et quand maman rentrait, j'étais toujours très heureux de la voir. Je prenais le gâteau qu'elle me tendait et j'allais le déguster au jardin. Je savais que je ne devais pas le manger à toute vitesse. Je voulais le savourer lentement. Plus c'est lent, plus c'est bon. Je me contentais de grignoter un petit morceau du bord pour laisser pénétrer la saveur du gâteau dans ma bouche. Puis je levais les yeux vers le haut, vers le ciel bleu. Ensuite, je redescendais mon regard vers le bas, vers mon chien. Puis, je regardais le chat. J'avais mon rituel. C'est comme cela que je voulais savourer mon gâteau. Et ce bonheur se prolongeait facilement une demi-heure. Je n'avais aucun souci. Je ne pensais ni à la gloire, ni aux honneurs, ni au profit. C'est pour cela que ce gâteau de mon enfance est un souvenir merveilleux, profondément ancré dans ma mémoire. Nous avons déjà tous connu de tels instants, sans aucune attente, des moments pleins en eux-mêmes où nous ne regrettons rien. Ce sont des instants de réel bonheur, où nous ne nous embarrassons d'aucune question philosophique du type « Qui suis-je ?» Mais aujourd'hui, qui est véritablement capable de manger un gâteau de cette façon? De boire une tasse de thé avec une telle présence et d'apprécier pleinement son environnement? Nous pouvons redécouvrir tout cela. Renaître et réapprendre à marcher avec stabilité, comme une personne libre, sans fantôme à notre poursuite. Nous sommes ici pour apprendre à nous asseoir confortablement, comme si nous étions sur une fleur de lotus et non sur des charbons ardents, ce qui est souvent le cas dans notre société. Assis sur des charbons ardents, nous perdons notre sérénité. Nous pouvons décider, aujourd'hui, de réapprendre à respirer, à sourire, à cuisiner. Notre maman nous a appris à manger, à boire. Elle nous a montré comment nous tenir debout, comment marcher, comment parler. Elle nous a tout appris. Et maintenant, nous devons réapprendre tout. Et si nous parvenons à poser tous ces actes en pleine conscience, nous renaîtrons à la lumière de l'éveil. Bodhicitta. La bodhicitta est l'esprit d'éveil, l'esprit de débutant. Si je suis inspiré par le désir de pratiquer et de transformer ma souffrance, je suis vraiment en mesure d'aider les nombreuses personnes qui souffrent autour de moi. À ce moment-là, l'esprit est particulièrement beau. C'est précisément l'esprit d'un bodhisattva, l'esprit de celui qui s'est libéré de la souffrance et qui peut alors venir en aide à tous les êtres. C'est ce qui est parfois nommé esprit d'amour. L'amour étant ce qui nous pousse à pratiquer. Nous ne cherchons pas uniquement à fuir la souffrance. Nous voulons autre chose. Nous voyons bien plus loin que cela. Notre désir profond est de transformer notre propre souffrance et de nous en libérer afin d'aider de nombreuses autres personnes à transformer la leur. En tant que moine, monial ou pratiquant laïque, nous devrions tous veiller à garder cet état d'esprit de débutant à tout moment, bien présent, bien vivant, car c'est une puissante source d'énergie. Elle pourra nous nourrir et, grâce à elle, nous pourrons pratiquer au mieux les entraînements à la pleine conscience. Nous trouverons alors l'énergie nécessaire pour affronter et surmonter les difficultés rencontrées dans notre vie de pratiquant. Il est vraiment essentiel de pouvoir nourrir l'esprit d'amour, de préserver l'esprit de débutant et d'alimenter notre bodhicitta. Entretenons donc notre pratique et veillons à ne pas laisser mourir cette énergie au bout de 2 ou 3 années. Personnellement, j'ai eu le bonheur de pouvoir maintenir vivant mon esprit de débutant jusqu'à aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas rencontré de difficultés. Au contraire, j'ai dû dépasser de nombreux obstacles sur mon chemin de pratique. Mais jamais je n'ai abandonné, et ce, grâce à la bodhicitta, mon esprit de débutant, toujours très puissant. Cultivez la confiance en votre pratique, car tant que cet esprit demeure en vous, tant qu'il est suffisamment puissant, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin, vous serez en mesure de les surmonter, aussi nombreuses soient-elles. Et quand vous le sentirez faiblir, soyez bien conscient que tout danger peut arriver. Dans ces moments-là, veillez à ne pas le laisser faiblir davantage. Entretenez-le. Restez un bodhisattva votre vie entière. Et vous pourrez apporter beaucoup de bonheur autour de vous et dans le monde. Vous serez une personne pleinement heureuse. Deuxième partie. Récit de guérison. Les petits yeux. Récit de Liliane Alneff. Le simple fait de dire qu'il y a en moi une longue mémoire d'expériences traumatisantes me pousse encore à me faire toute petite tant j'en ressens de la honte. Je peux même en dresser la liste physique sur papier, mais elle me fait honte, elle aussi. Elle est bien trop longue et horrible pour paraître réelle. Et, en même temps, tout ce qui y figure semble pourtant bien dérisoire. Il paraît qu'il s'agit de la culpabilité du survivant. J'ai l'impression qu'il me faudrait une éternité pour éradiquer toutes ces parts de moi qui ne cessent de comparer et juger. Si les crimes dont j'ai été victime avaient été dénoncés, certains de leurs auteurs auraient pu être condamnés. Et j'ai moi-même été témoin de nombreuses offenses commises à l'encontre d'autres personnes. Mais concrètement, l'événement le plus déchirant de mon enfance n'est en fait pas considérable. Et pourtant, il représente le meilleur exemple illustrant à quel point la pratique m'a permis d'amorcer une guérison. J'ai grandi dans un environnement particulièrement exposé aux intempéries. Tout ce qui était à découvert rouillait particulièrement vite. En revanche, le bassin des grands lacs où nous vivions était magnifique en toute saison. Et pour l'enfant que j'étais, et qui aimait tant créer de ses mains. Les variations extrêmes de la météo transformaient chaque espace en une magnifique boîte au trésor, regorgeant de merveilles artistiques et naturelles. Bois, roches, pigments et autres décors. C'est ainsi que je passais tout mon temps libre à l'extérieur, à construire mon village miniature personnel, parfaitement exempt d'écoles, de magasins de vins et spiritueux, sans église ni prison. Je me bâtissais mon petit monde utopique, dont l'accès était interdit à toute personne qui me faisait du tort. Je bâtissais des maisons de brindilles, aux toits de chaume, et des logements en pierre, garnis de bardeaux. Je nivelais les routes dans les dépôts glaciaires et construisais des barrages pour contenir l'eau de pluie et former lacs et canaux. De maison en immeuble, c'est toute une ville qui s'édifiait. J'avais même créé une ferme à l'aide des radis et carottes géants dont j'avais chipé les graines dans le potager familial. Ensuite, ce fut au tour de mes jouets, dinosaures et animaux de ferme préférés, d'emménager dans les maisons, constituant ainsi une communauté à part entière. Œuvrant au fil des saisons à mon tout petit projet de génie civil, j'ai peu à peu développé l'illusion sensorielle de voir le monde entier du haut de quelques dizaines de centimètres. Mais petit